Pourrions lire un premier verset dans l'Apocalypse, premier chapitre, au milieu du verset 5. À celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang, et il nous a fait un royaume, des sacrificateurs pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Dans le chapitre 5 de l'Apocalypse, verset 12, des milliers de milliers disant à haute voix: digne est l'agneau qui a été immolé de recevoir la puissance, et richesse et sagesse et force et honneur et gloire et bénédiction. Donc très bien qu'il convenait que ceux qui sont les objets de l'amour de Christ et qui sont à l'abri des jugements qui vont être exercés par Dieu sur la terre et qui sont à l'abri de ces jugements, il convenait que l'amour du Seigneur soit évoqué. Et l'apôtre Jean commence à celui qui nous aime. Nous avons chanté « Je sais combien tu m'as aimé ». Mais Jean ne nous dit pas exactement « Je sais combien tu nous as aimés », mais « à celui qui nous aime ». Et en ce qui nous concerne, nous comprenons que l'amour de Christ eh bien, est à l'origine de tout ce qu'il va exprimer dans ses paroles de louange. La cause souveraine de notre part en Christ, nous sommes des rachetés du Seigneur, nous sommes des brebis, il est notre berger, mais ce qui est à l'origine de cette part, eh bien, c'est son amour, c'est l'amour divin, c'est un amour absolu, qui ne trouve qu'en lui-même les motifs pour agir. Nous savons bien que nous n'avions rien d'aimable, eh bien nous voyons que le Seigneur a trouvé en lui-même, en son amour, les motifs pour nous sauver. C'est un amour qui vient du cœur de Dieu, c'est un amour que rien ne justifiait, eh bien, nous sommes les objets de l'amour de Christ, nous sommes les objets de l'amour de Dieu. Et Jean nous dit à celui qui nous aime, il exprime ce présent, c'est un amour permanent. Un amour éternel et insondable. L'apôtre Paul, ailleurs, a pu dire que Christ l'a aimé, que Christ nous a aimés au passé. Mais nous voyons que c'est un amour aujourd'hui qui est permanent. Il continue à nous aimer. Et donc, Jean se fait notre porte-parole. Il dit, il élève son cœur vers le Seigneur Jésus en disant à celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang. Il nous a lavés de nos péchés. C'était la conséquence nécessaire, une nécessité pour le cœur du Seigneur que nous soyons lavés et purifiés de nos péchés. Et il nous a fait, et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang. Dans son sang, c'est le moyen unique et merveilleux, précieux pour nos cœurs, pour nous laver. Et comme nous l'avons exprimé ce matin, c'est son sang, son propre sang. Ailleurs, dans la parole de Dieu, il nous est parlé du sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, mais ici nous voyons une intimité entre l'apôtre Jean et son Seigneur, et il peut dire, il nous a lavés de nos péchés dans son sang, dans son propre sang, dans son sang précieux. Ensuite, il nous dit, et il nous a fait un royaume des sacrificateurs pour son Dieu et Père. C'est une position extrêmement, extrêmement élevée, extraordinairement élevée, qui nous a été conférée par le sang de Jésus-Christ. pouvons lire en 1 Samuel 2 au verset 1 Samuel. Verset 8, de la poussière il fait lever le misérable, de dessus le fumier il élève le pauvre pour les faire asseoir avec les nobles et il leur donne un héritage, un trône de gloire. L'apôtre Jean nous dit que non seulement le Seigneur nous aime, non seulement il nous a lavé de nos péchés dans son sang, dans son propre sang, mais il nous a fait un royaume. C'est-à-dire qu'il nous a anoblis et associés à Christ dans ses fonctions royales et sacerdotales. Ce qu'il a fait pour nous, il nous a lavé de nos péchés dans son sang. Ce qu'il a fait de nous, il nous a fait un royaume des sacrificateurs pour son Dieu et Père. Mais ce qu'il a fait de nous, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour son Dieu et Père. Pour son Dieu et Père, il nous a fait un royaume des sacrificateurs pour son Dieu et Père. C'est pour la gloire du Père qu'il nous a fait un royaume et des sacrificateurs. Et le cœur du Seigneur désirait que son Dieu et Père soit glorifié par des adorateurs. Et l'apôtre Jean et nous avec lui, nous pouvons dire à lui la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Un tel amour ne peut rester sans écho dans nos cœurs. Et nous pouvons dire à lui la gloire, c'est-à-dire que toute gloire en revient à Christ. Et nous voyons avec quel empressement nous devrions lui rendre cette gloire. Et l'apôtre ajoute, et la force au siècle des siècles. Le temps de son humiliation et de son abaissement a pris fin, et celui qui a été crucifié, comme nous l'avons exprimé ce matin, eh bien, à celui qui a été crucifié est attribuée la force, non pas encore pour régner, mais d'abord pour intervenir comme juge, puisqu'il va prendre en main les affaires de la terre pour y imposer la justice divine, et cela par la force, c'est-à-dire par des jugements. Et l'apôtre peut ajouter à lui la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Que cette gloire et cette force lui appartiennent pour toujours, à toujours, car il reste à jamais celui qui nous aime. Dans ce verset 5 et 6, nous voyons qu'il est beaucoup parlé de nous. Nous sommes encore sur la terre, et si l'apôtre Jean peut exprimer de telles paroles d'adoration, nous voyons que il nous aime, il nous a lavé de nos péchés dans son sang, il nous a fait un royaume des sacrificateurs pour son Dieu et Père. au chapitre 5 de l'Apocalypse, si nous lisons ce chapitre attentivement, eh bien nous voyons que il n'y a plus de nous. Dans le ciel, alors que l'Église a été enlevée et transportée dans le ciel, et que nous voyons l'agneau immolé au milieu du trône, il n'est pas isolé, mais il est entouré. Il est entouré de myriades et de myriades, de milliers et de milliers. Et nous savons, en lisant ce chapitre, que l'agneau est seul digne d'ouvrir le livre des conseils de Dieu. Mais dans toutes les paroles de louange que nous trouvons dans le ciel, nous voyons des milliers, des milliers, de myriades, de milliers, de myriades de rachetés de l'ancienne économie, de la nouvelle économie, de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament, et bien qui ont leur pensée et leurs yeux qui sont fixés sur l'agneau. Et ils ne parlent plus d'eux-mêmes, il n'y a plus de nous. Et la louange qui est exprimée s'adresse uniquement à l'agneau qui se tient comme immolé, ayant les marques encore de son humiliation sur cette terre. Alors dans ce verset 12, « Digne de l'agneau qui a été immolé de recevoir la puissance ». Nous avons exprimé ce matin que Christ a été crucifié. Il y a une expression, je crois, dans les Corinthiens qui nous dit qu'il a été crucifié en faiblesse. Eh bien, il est digne de recevoir la puissance, la domination, le pouvoir. Toutes ces gloires qui étaient voilées sur cette terre, sur la terre, eh bien maintenant, dans le ciel, elles sont exprimées aux yeux de tous. Il a été crucifié en faiblesse, eh bien il est digne de recevoir la puissance. Et richesse. Nous nous souvenons que Christ a vécu dans la pauvreté. Il est venu sur cette terre et la parole de Dieu exprime qu'il a été le pauvre. Eh bien, s'il a vécu dans la pauvreté, il est digne maintenant, dans le ciel, de recevoir la richesse, c'est-à-dire la possession de tout ce qui constitue le royaume. Et sagesse. Nous savons que Christ, pour le monde, eh bien, pour les nations, est folie. Eh bien, il est digne, maintenant, dans le ciel, de recevoir la sagesse, c'est-à-dire la connaissance et l'intelligence divine pour pouvoir administrer ce royaume. Et la force. Nous nous souvenons qu'il a été cette pierre rejetée. Mais maintenant, il est digne de recevoir la force, c'est-à-dire la capacité d'exercer les droits de Dieu auxquels tous devront se soumettre sur la terre. Et honneur. Et honneur, il s'est anéanti. Nous souvenons de cette expression dans le deuxième chapitre des Philippiens. Il s'est anéanti. Eh bien, celui qui s'est anéanti, il est digne de recevoir l'honneur. Que l'excellence de sa personne, et tous ces titres glorieux soient enfin proclamés devant tous dans le ciel. Et gloire, il s'est anéanti, il s'est abaissé, eh bien, celui qui s'est abaissé, il est digne maintenant de recevoir la gloire dans le ciel, que soient proclamées enfin toutes ces perfections, que soit annoncé et proclamé qu'il est Dieu, et qu'il soit honoré comme tel dans le ciel au vu de tous. Et la dernière expression, c'est « et bénédiction ». Nous savons par les Écritures qu'il est devenu malédiction, malédiction pour nous. N'est-il pas digne de recevoir toute bénédiction que toutes les lèvres disent éternellement, sa bonté et tous ses bienfaits et tout son amour qu'il a manifesté pour ses rachetés. N'est-ce pas ce qui convient dès maintenant sur la terre de dire, peut-être à l'avance, digne est l'agneau qui a été immolé de recevoir la puissance et richesse et sagesse et force et honneur et gloire et bénédiction, c'est-à-dire cette gloire qui ont été voilées sur cette terre, mais qui un jour dans le ciel sera visible de tous.
Par rapport à ce qui a été dit dans les deux passages, on pourrait peut-être juste voir en Apocalypse 5, comme on a lu, verset 12, « Digne est l'agneau qui a été immolé ». Donc, immolé, ça veut dire qui était tué comme les sacrifices à l'époque. Et puis, quand on lit dans ce qu'on a lu dans le premier passage, Apocalypse 1, verset 5, celui qui nous a lavé de nos péchés dans son sang. On pourrait se poser la question, le sang, est-ce que c'est le sang qui a coulé de sa tête par la couronne d'épines que les soldats lui ont mis sur sa tête et qui l'ont enfoncé avec des bâtons? Ou est-ce que c'est le sang qui a coulé de son côté quand le soldat a percé son côté? Parce qu'on lit que quand le soldat a percé son côté, il coula du sang et de l'eau. Ce qui prouvait le sang séparé de l'eau, que le Seigneur Jésus était vraiment mort sur la croix. Donc, on peut se poser la question, comme on le dit souvent, on est sauvé par le sang du Seigneur Jésus. C'est lequel? Celui de la tête ou celui du côté? Et pourrait se dire et l'un et l'autre, ça voudrait dire que c'est l'homme qui a participé au fait que le Seigneur Jésus fasse couler son sang. Mais c'est ni le sang de sa tête, ni celui de son côté. Si on lit en Genèse 9, c'est après que Noé et sa famille sont passés par le déluge. Noé, il a sacrifié. Et au chapitre 9, au verset 10, au verset 3, on lit que Dieu, il dit à Noé, « Tout ce qui se meut et qui est vivant vous sera pour nourriture, comme l'herbe verte. Je vous donne tout. Seulement, vous ne mangerez pas la chair avec sa vie, c'est-à-dire son sang. » Et dans la traduction de la Bible que nous on a ici, pour la vie, c'est aussi écrit « vie ou âme, âme ». Donc, le Seigneur Jésus, le sang duquel on parle en image, qui nous a sauvés, c'est pas son sang physique, mais c'est la vie, sa vie qu'il a donnée. Il s'est donné entièrement lui-même. Et le sang dont nous parle, qui est coulé de son côté, c'est une image de sa vie qu'il a donnée. Mais quand nous parlons de que le Seigneur Jésus a donné son sang pour nous sauver, faut être conscient que c'est ni le sang qui est coulé de sa tête, ni le sang de son côté, mais que c'est sa vie qu'il a donnée pour nous, qui nous a sauvés.
Seul lui qui nous aime et qui 41:2.
Je voudrais juste ajouter brièvement, très brièvement, deux, trois remarques. C'est vrai que c'est une question délicate. Dans les évangiles, il n'est jamais, jamais question du sang qui est infligé à Jésus lorsqu'il souffre entre les mains des hommes. Jamais. Et pourtant, c'est vrai que le supplice du crucifié ne peut pas s'imaginer autrement qu'avec des blessures qui l'ont profondément meurtri. Il y a la couronne d'épines, il y a le supplice de la flagellation. On sait bien historiquement que voilà, les Romains avaient mis au point certaines perversités dans la barbarie et que Jésus a été, comme tout crucifié, profondément blessé, meurtri. Voilà. Après, il y a dans cette passion que connaît Jésus deux moments distincts. Hein. Il y a ce qu'il a souffert de la part des hommes et puis ce qu'il a souffert de la part de Jésus, de la part de Dieu. Lorsqu'il était à la croix, là effectivement, les évangiles parlent d'un sang qui a coulé, le sang d'une victime. Hein. Et c'est bien là que Jésus a été l'agneau de Dieu, l'agneau envoyé par Dieu. Lorsque les hommes l'ont supplicié, C'était l'homme qu'il fallait défigurer, c'était l'homme dont on ne voulait pas, c'était l'homme qui se faisait passer pour le Fils de Dieu, etc. Mais il y a ce moment distinct dont parle profondément l'Épître aux Hébreux, lorsqu'il est question dans l'Épître aux Hébreux du sang, c'est par rapport justement à cet holocauste et à cette notion de sacrifice. Le sacrifice de Jésus, il s'est effectué lorsque, dans les 3 heures de la croix, dans des 3 heures sombres, eh bien, il a été éprouvé par Dieu, qui a tourné, retourné contre lui sa main, et qui a constaté à ce moment-là que cette victime qui s'offrait à Dieu, eh bien, était parfaitement sainte. Et c'est à la fin de ces 3 heures que le sang et l'eau ont coulé. Mais quand il est question du sang qui purifie, du sang qui fait propitiation, c'est ce sang-là. C'est le sang par rapport à l'Holocauste, par rapport à cette victime que Jésus a été à ce moment-là. Alors juste aussi peut-être pour une dernière remarque par rapport à l'Apocalypse. C'est vrai que je dis ça peut-être pour les plus jeunes, pour les enfants, c'est vrai que dans notre culture actuellement, cette culture qui nous entoure, l'Apocalypse a un sens bien particulier, c'est la catastrophe. Voilà, c'est le monde qui court à sa perte, qui sera submergé. Et là, vous avez bien sûr tout le cinéma américain qui s'est emparé de cette chose-là. L'Apocalypse, selon Dieu, c'est autre chose. Ça veut dire quoi? Et là, tout est contenu dans le premier mot, c'est la révélation. Révélation de Jésus-Christ. Alors bien sûr, avant que ces tribulations et ce jugement ne parviennent, il en est question au verset 9, eh bien avant, la parole nous proclame des choses très précieuses. Elle nous appelle bienheureux. On n'est pas ici dans la logique de la catastrophe. Absolument pas. Bienheureux, ce mot sera repris tout à la fin de l'Apocalypse. Et entre le début et la fin, eh bien on pourrait dire qu'il y a, si vous voulez, cette espèce de parenthèse un peu historique, pendant laquelle eh bien, le monde va rencontrer son jugement. Mais il y a cette parole révélée aux croyants, à ceux qui ont la foi, qui est donnée au début et à la fin. Voilà, cette révélation, bienheureux, le temps est proche. Quelque chose qui est du côté de l'espérance. Voilà, bientôt. Voilà des mots que la foi, des mots auxquels la foi donne un sens très particulier, et qui sont répétés à la fin, encore une fois. C'est-à-dire que vous n'avez rien à voir avec ce qui vient. Non, il y a quelque chose, une parole qui vous est adressée à vous. Alors dans ce passage, je vais pas m'attarder, ça a été dit, on a très peu de passages dans le Nouveau Testament sur le culte, sur la manière dont on rend culte. Eh bien, ce passage a quelque chose de très remarquable. Pourquoi ? Parce qu'on voit justement... Alors je vais essayer de l'exprimer un peu clairement, la place qu'occupe l'adorateur dans la relation avec le Fils et le Père. C'est-à-dire que l'adoration, elle est pour Dieu le Père, mais c'est à lui, à celui qui nous aime, que nous nous adressons. Et c'est à lui que nous donnons, c'est que nous exprimons notre profonde reconnaissance. C'est-à-dire qu'il y a là une relation qui est au cœur de l'adoration dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que nous adorons Jésus-Christ qui nous a amené là, mais cette parole que nous donnons, ce témoignage de reconnaissance que nous donnons à Jésus, c'est pour le Père. Là, il y a quelque chose de très profond qu'il faudrait pouvoir explorer un peu, enfin développer ou approfondir. Mais il y a quelque chose de l'ordre de l'appréciation que nous portons sur Jésus à travers l'adoration, elle rejoint d'une certaine manière celle que Dieu porte lui-même sur son propre Fils. C'est là qu'il y a aussi, à travers Jésus, qui a cette position de centre, une profonde rencontre. On parle du même objet, mais on en parle aussi d'une manière qui prouve que on a cet esprit de puissance qui nous permet d'en parler comme Dieu aimerait qu'on en parle. Voilà, c'est toute la différence.
Si je peux relever encore une distinction qu'on a dans ce chapitre 5 d'Apocalypse, au verset 11, il nous est dit « Beaucoup d'anges à l'entour du trône, des animaux, des anciens. Leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers de milliers. Et leur louange s'adresse, digne est l'agneau qui a été immolé de recevoir. » J'y reviendrai. Au verset 13, j'entendis toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre et au-dessous de la terre et sur la mer et toutes les choses qui y sont disant à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et ce qui est placé là devant nous dans ces deux louanges se ressemble et est pourtant distinct. Dans la deuxième, on retrouve seulement quatre éléments. La bénédiction, l'honneur, la gloire, la force, que l'on a déjà dans la première louange. Mais dans la louange, celles qui ne sont pas reprises, c'est la puissance, la richesse, la sagesse. La deuxième s'adresse à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Nous voyons le Seigneur dans sa divinité. Celui qui est assis sur le trône, c'est celui qui va ouvrir les sceaux, qui est digne d'ouvrir les sceaux, qui seul a le droit d'ouvrir les sceaux. C'est le Seigneur, comme assis sur le trône, comme l'agneau, mais plutôt dans le côté de sa divinité. Il n'est alors pas besoin, pas à sa place même, de parler de puissance, de richesse et de sagesse. Il est le Tout-Puissant. Il est celui à qui la terre appartient. Il est celui qui est la sagesse. Alors que dans la première, c'est le Seigneur comme l'agneau qui a été immolé. Dit ailleurs autrement, l'homme Christ Jésus. Deux facettes, deux manières dont le Seigneur est placé devant nous différemment. Et quelque part, quand on lit ces choses, nous sommes associés à travers ces 24 anciens dans la première louange, mais nous sommes aussi créatures. Et ce sont des créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, etc. Les deux ont leur place dans notre louange que nous pouvons lui apporter. Nous rappeler toujours qu'il est en même temps celui qui s'est abaissé, comme disait le Philippien, jusqu'à la mort et à la mort de la croix, prenant cette place de la victime. Mais il est en même temps le Tout-Puissant. Et pour reprendre l'allusion que faisait Jean-Marc à l'Épître aux Hébreux, je voudrais juste relire deux versets dans ce chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux. 9, verset 11. « Mais Christ étant venu, souverain sacrificateur des biens à venir, par le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas fait de main, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Et à la fin du chapitre, verset 24, « Le Christ n'est pas entré dans des lieux saints faits de main, copie des vrais, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant la face de Dieu, ni non plus afin de s'offrir lui-même plusieurs fois, ainsi que le souverain sacrificateur entre dans le lieu saint chaque année avec un sang autre que le sien, puisque dans ce cas il aurait fallu qu'il souffrît plusieurs fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, en la consommation du siècle, il a été manifesté une fois pour l'abolition du péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois et après cela le jugement, ainsi le Christ aussi, ayant été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois sans péché à salut à ceux qui l'attendent. Roi et sacrificateur, c'est la place du Seigneur, qui joint le Messie, image dont est David, et la souveraine sacrificature, fils d'Aaron, une autre sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. il est roi et sacrificateur. Avec son propre sang, une fois pour toutes, dans le ciel même.
La première strophe.